à tous et bienvenue. L'émission Compte-Gouttes se confine, mais se transforme. Je suis Caroline et je vous raconte une ou deux histoires tous les jours à 14h30 sur Radio Campus Grenoble 90.8. Profitez-en pour endormir vos enfants, augmenter le sonotone de belle-maman, profitez-en pour rêver et voyager. Il n'y a pas d'angoisse à avoir, on ne sera jamais à court d'histoire, car les contes, c'est comme l'eau de la mer. Tu peux en prendre autant que tu voudras, jamais le niveau ne baissera. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un tour du côté des contes classiques et on commence avec le chat botté dans une version adaptée d'après le conte de Perrault. Voilà une histoire qui commence fort mal. Un meunier, aimé et respecté de ses trois fils comme de tout le voisinage, vient à mourir. Et l'héritage est bien pauvre, son moulin, son âne et son chat. Le partage n'est pas difficile. À l'aîné, le moulin, au cadet, l'âne et au benjamin, le chat. Certes, un chat est un bon compagnon, aimant et docile, mais est-ce lui qui va moudre le blé ou transporter la farine comme le moulin et l'âne des deux aînés? Que nenni! Seul avec son pauvre héritage ronronnant sur ses genoux, le jeune homme se lamente. Mais que vais-je devenir? Comment gagner le sou si je n'ai pour aide que ce malheureux matou? Et il pleure, maudissant le ciel de son peu de chance. Le chat, qui entend ses lamentations, est horriblement vexé. « Pour qui me prend-il donc » songe-t-il dans ses moustaches, qu'il avait fort longues. « Ignore-t-il qu'en ces temps douloureux, un chat est le meilleur des dons? Des moulins et des ânes, il en pleut à foison !» Et se tournant vers son maître, qui n'en finit pas de geindre et même de s'arracher les cheveux. « Allons, compère, un peu de sang-froid, que diable! Ce n'est pas en pleurnichant de la sorte que nous allons nous enrichir, sacrebleu !» Un chat qui parle ? Le fils du meunier en reste sans voix. « Laissez-moi faire, mon maître, » reprend l'animal. « En moins de temps qu'il n'en faut à la tempête pour plier le blé, votre fortune sera faite. » Et il expose son plan au jeune homme qui, suffoqué par tant d'audace, ouvre une bouche de plus en plus grande. « Allons, » gronde gentiment le chat, « fermez donc cette bouche et apportez-moi de ce pas une paire de bottes et un sac. Du nerf, mon maître !» L'autre s'empresse d'obéir à cet animal si sûr de lui. Et bientôt, vêtu d'un large feutre en panaché, de bottes de cuir et d'une ceinture à boucles dorées, le chat part exécuter son plan. Tout chasseur de fortune suit les règles du jeu. Commencez par le commencement. Notre félin, coiffé et botté, se munit donc d'un sac de carottes bien juteuses et, les exposant bien en vue d'un terrier de lapin, se cache derrière un buisson. En un clin d'œil, une troupe de rongeurs s'attable autour des appâts. Quelques coups de patte et le chat enfourre plus d'un dans son sac. Tâche aisée pour un chasseur de son espèce. Et son butin sur l'épaule, il court au château du roi qui l'accueille aimablement. « Majesté, dit le chat, c'est mon maître, le marquis de Carabas, qui m'envoie et vous prie d'accepter ce gibier de sa part. » Le roi est ravi. « Remercie ton maître pour ces délicieux lapereaux, brave chat. J'en ferai un excellent ragoût dès ce soir. » Pendant quelque temps, le chat poursuit son manège. Il continue à apporter au roi force gibier, à plumes ou à poils, toujours au nom de ce soi-disant marquis de Carabas, son maître bien-aimé. Et le roi, de le remercier chaque fois, enchanté de l'aubaine. Ne dit-on pas que les petits cadeaux entretiennent l'amitié? Un jour, apercevant le roi et sa fille dans leur carrosse, le chat se précipite vers le fils du meunier. « Déshabillez-vous, mon maître, plongez dans la rivière qui longe le long de la route et laissez-moi faire. » Le jeune homme enlève ses pauvres guenilles et saute dans l'eau sombre sans chercher à discuter davantage. Et quand le carrosse vient à passer, le chat s'époumonne. « Au secours! Au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, se noie !» Le roi fait arrêter le carrosse et, fort curieux en vérité de voir ce marquis de Carabas qui le régale depuis quelques semaines de gibier si délicieux, envoie ses valets repêcher le noyé. Puis il s'enquiert de l'accident. D'habiles voleurs ont dérobé les habits de mon maître pendant qu'il se baignait, explique le chat. De surprise, le marquis a bu la tasse, sire. Le roi ordonne alors qu'on apporte au jeune homme les plus beaux habits qu'on puisse trouver dans ses malles. Le fils du meunier, une fois revêtu d'un beau pourpoint doré, d'une chemise de soie et d'une grande cape à fière allure. Grand, bien fait, blond comme les blés d'été, il se dégage de sa personne un air de noblesse qui ne laisse pas indifférente la princesse. Elle le trouve même fort à son goût. Quant au roi, Impressionné par tant d'allure, il insiste pour que le jeune homme se joigne à leur promenade, et tous de monter dans le carrosse. Le chat se frotte les mains, son plan commence à prendre tournure, sa perlipopette. Il précède alors le carrosse et interpelle des paysans qui fauchent un pré. « Vous qui fauchez, je vous somme de dire au roi que ces prés appartiennent au marquis de Carabas ou foi de félin, il vous en cuira !» Les faucheurs s'empressent d'opiner du bonnet. Aussi, quand le roi passe près d'eux et les questionne, ils font ce que le chat leur a demandé, et plutôt deux fois que l'une. Ravi de voir qu'à un beau visage s'ajoute un bel héritage, le roi continue sa route. Le chat ne s'arrête pas là. Voyant des moissonneurs sur le bord d'un champ, il les apostrophe. « Vous qui moissonnez, je vous somme de dire au roi que ces champs appartiennent au marquis de Carabas ou foi de félin, il vous en cuira !» Lorsque le souverain passe près d'eux et les interroge, les moissonneurs répondent en cœur. « Ces champs sont à notre maître vénéré, le marquis de Carabas, sire !» Diable ! Le roi est de plus en plus enchanté d'avoir à ses côtés un voisin aussi puissant. Et au fur et à mesure que le carrosse va de son bonhomme de chemin, les biens du marquis de Carabas s'étalent de tous côtés grâce aux bons soins de Messire le chat. Celui-ci arrive bientôt devant un château magnifique qui domine la vallée. Renseignement pris, c'est celui d'un ogre, justement propriétaire, comme le hasard fait bien les choses, des terres malicieusement attribuées au marquis de Carabas. Quelle aubaine ! Le chat va donc présenter ses hommages à l'ogre, qui le reçoit fort bien, ma foi, lui offre à boire et à manger, et puis tous deux se mettent à converser. J'ai ouï dire que les ogres sont capables de se transformer en toutes sortes d'animaux, du plus féroce au plus minuscule, dit le chat. L'ogre sourit de toutes ses dents. Sans doute, répond-il. Je m'en vais vous le prouver sur l'heure. Il se change en un lion terrible et rugissant. Le chat, un instant terrorisé, se reprend bien vite. Cela est fort effrayant, admet-il du haut d'un lustre où il s'est réfugié. Mais je ne peux croire que, gros comme vous l'êtes, vous puissiez vous transformer en un petit animal. Que sais-je, moi, une souris, par exemple? L'ogre éclate de rire. Quel naïf, ce pauvre chat! Un ogre peut tout! Et une souris trottine bientôt sous le nez du chat. Vous voyez bien que c'est possible, dit l'ogre. Sans aucun doute, miaule le chat, qui n'en fait aussitôt qu'une bouchée. Un malin et demi, messire l'ogre. Dans la cour du château, le carrosse royal vient de faire son entrée. Le roi a voulu rendre visite au châtelain d'une si splendide forteresse. Alors le chat se précipite devant le souverain et, avec une profonde révérence, « Sire, que votre majesté soit la bienvenue dans l'humble demeure de mon maître, le marquis de Carabas. Une collation attend votre bon plaisir. » « Une collation ? La belle affaire ? » En fait, c'est à un dîner luxueux que le roi est convié, avec 1001 plats parmi les plus rares, car l'ogre, avant d'être dévoré, attendait quelques amis en sa demeure. Le roi n'en revient pas de tant de richesses, et apercevant les regards amoureux que se jettent le fils du meunier et la princesse, s'approche du jeune homme et lui dit « Monsieur de Carabas, vous me combleriez en acceptant de devenir mon gendre !» Le soir même, un éblouissant feu d'artifice célèbre le mariage des deux jeunes gens. Quant au chapoté, épuisé par toutes ses aventures, il se met en boule au coin de la cheminée et se prend à rêver aux souris qui lui tomberont peut-être demain sous la dent, et seulement si l'envie lui en prend. Car le chat d'un marquis de Carabas ne chasse que pour son plaisir, soyez-en sûrs.
Land of the lights, tangled. again.
Que j'aime, qu'il nous faudrait au moins un siècle de confinement pour que je puisse vous les raconter. J'espère entre nous qu'on n'en arrivera pas là. Il y a une histoire d'Andersen, qui est déjà un auteur que j'aime beaucoup, que je relis de temps à autre et que je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui, qui s'appelle « Les cygnes sauvages ». Loin, bien loin d'ici, dans un pays de neige, vivaient un roi et une reine qui avaient 11 fils et une fille, Héloïse. Que la vie était belle au château, les parents adoraient leurs enfants, les enfants leurs parents et tout ce petit monde vivait heureux. Un jour, pourtant, la reine vint à mourir. Tous la pleurèrent. Puis, parce que c'est ainsi, le roi se remaria. La nouvelle reine était une mauvaise femme qui n'aimait pas les enfants. 12, vous pensez ? Il fallait se débarrasser de cette marmaille. Elle se mit à l'ouvrage. Dès son arrivée au palais, elle plaça Héloïse à la campagne chez un couple de paysans. Puis elle s'acharna sur les pauvres princes. Pas un jour ne passait sans qu'elle n'en dise du mal devant leur père. Tant et si bien que le roi oublia peu à peu l'amour qu'il leur portait. La méchante femme n'avait plus qu'à passer à l'étape suivante. Un beau matin, elle entra dans la salle où se trouvaient les princes et leur cria « Changez-vous en grand oiseau muet et envolez-vous à jamais !» Le terrible sort de la reine, oui, car elle était un peu sorcière, faillit sur un point. Les princes se transformèrent bien en cygnes sauvages, mais ils ne devinrent pas muets comme elle l'avait souhaité. Ils quittèrent le palais à tire-d'aile et à grands cris. Plus tard dans la nuit, ils passèrent au-dessus de la maison où vivait Héloïse. Ah, si leur sœur avait pu les voir ainsi, peut-être aurait-elle pu les aider. Mais ils eurent beau tournoyer au ras du toit pendant un long moment, rien n'y fit. Tout le monde dormait à poings fermés dans la maisonnée et nul ne les remarqua. Alors, ils reprirent leur vol à la découverte du monde et montèrent haut dans le ciel jusqu'à disparaître dans les nuages. Le temps passa pour les frères comme pour Héloïse. Dans la pauvre maison paysanne, Héloïse trouvait les jours bien longs. Elle soupirait en pensant au château et à tout l'amour que ses frères lui portaient. Au fil des mois, elle devenait de plus en plus belle, et son cœur était bon, mais sa tristesse grandissait avec elle. À l'âge de 15 ans, elle rentra au château de son père. Sa marâtre, jalouse de sa beauté, aurait bien aimé la changer en oie sauvage, mais elle ne s'y risqua pas, car le roi aimait tendrement sa fille. Tant pis, elle allait trouver une autre solution. Un matin, la reine ramassa deux crapauds dans le jardin et les chargea d'une sinistre mission. « Touche le genou d'Héloïse quand elle se déshabillera pour qu'elle devienne laide comme toi, » dit-elle au premier. Au second, elle ordonna d'effleurer la main d'Héloïse, faisant ainsi d'elle la personne la plus méchante du royaume. À l'heure du bain de la princesse, les crapauds sautèrent dans la baignoire. L'un se posa sur son genou et l'autre lui embrassa la main comme l'avait ordonné la reine. Quand la jeune fille sortit de l'eau, deux roses flottaient à la surface. La beauté et la bonté d'Héloïse avaient réussi à conjurer le sortilège. Loin de se laisser abîmer par les crapauds, c'était elle qui avait changé en fleurs les méchants batraciens. La reine était furieuse. Qu'à cela ne tienne, elle allait s'y prendre autrement. Chaque jour, à l'heure de sa toilette, la reine fit venir Héloïse dans sa chambre. Et tous les matins, elle la frottait avec du bouchon brûlé pour lui rendre la peau noire et jeter sur ses cheveux une poussière nauséabonde ramassée dans la basse-cour. Et Héloïse, gentille et un peu naïve, se laissait faire. Bientôt, même le roi fut incapable de reconnaître sa fille en croisant cette souillon dans le jardin du palais. Ses frères disparus, son propre père qui l'ignorait, c'en était trop. Héloïse s'enfuit du château. Son cœur lui faisait mal tellement elle était malheureuse, mais un espoir adoucissait sa peine, celui de retrouver ses frères. La nuit venue, la jeune princesse finit par s'endormir sur un lit de feuilles et d'un somme sans rêve. Le matin, elle reprit son chemin, bien décidée à retrouver ses frères. Au détour d'un sentier, elle croisa une vieille femme qui ramassait du bois. Sans attendre, Héloïse lui demanda si elle n'avait pas vu 11 princes. « Non, » répondit la vieille, « mais non loin d'ici, j'ai croisé 11 cygnes au front couronné d'or. » Du doigt, elle indiqua la direction à Héloïse qui se mit aussitôt en route. Après de longues heures de marche, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, la princesse arriva à la mer. Sur le sable gisaient 11 plumes blanches. Elle était sur le bon chemin. C'est alors qu'elle aperçut de grands cygnes sauvages qui s'approchaient d'elle à grandes envolées. Au moment où ils se posèrent, toutes leurs plumes disparurent et Héloïse vit apparaître ses frères. Quel bonheur ! Tous riaient et pleuraient à la fois. L'aînée finit par prendre la parole. Le sort de la reine est terrible. Le jour, nous sommes des cygnes, mais à la nuit tombée, nous reprenons forme humaine. Nous habitons de l'autre côté de l'océan. C'est loin, très loin, à 2 jours de vol. Nous nous arrêtons pour dormir sur un rocher isolé au milieu des mers, car quand nous avons forme humaine, nous devons nous reposer sur un morceau de terre, aussi petit soit-il, sous peine de nous noyer. Chaque année, nous avons le droit de passer 11 jours ici, sur la terre de nos ancêtres, et de survoler le château de notre père. 9 jours ont déjà passé, il ne nous reste que 2 jours, hélas, avant de repartir. Héloïse était effondrée. Elle venait de retrouver ses frères et elle allait les perdre de nouveau. Ils en parlèrent pendant de longues heures et, finalement, il fut décidé qu'Héloïse repartirait avec eux le lendemain. Après tout, rien ne la retenait sur ses terres. Pendant toute la nuit, Héloïse et ses frères tressèrent un hamac suffisamment solide pour que la jeune fille puisse s'y étendre. Et au petit matin, comme tous les matins, les frères se retransformèrent en cygnes. Ils saisirent le hamac et s'envolèrent aussitôt pour leur long voyage. Les frères volaient moins vite qu'à l'ordinaire, car le poids d'Héloïse les ralentissait. Le soleil commençait à décliner et le rocher sur lequel ils avaient coutume de faire halte pour y reprendre forme humaine n'était toujours pas en vue. Pire encore, de sombres nuages annonçant un orage approchaient à toute vitesse. Une sourde inquiétude s'empara d'Héloïse. Elle s'en voulait de les ralentir et craignait qu'ils ne se noient par sa faute. La tempête arrivait à toute vitesse, le ciel devenait de plus en plus terrible, sillonné par des éclairs menaçants, mais au moment où le soleil s'enfonçait dans la mer, Héloïse aperçut enfin le frêle récif balayé par des vagues déferlantes. Les cygnes s'y posèrent in extremis Et tous passèrent la nuit serrés les uns contre les autres, attendant que le ciel se calme. Le matin arriva, et le soleil avec. Ils reprirent donc leur voyage. Bientôt, Héloïse aperçut devant elle, posé sur un nuage, un palais de glace, brillant de milliers de cristaux et entouré d'une forêt d'arbres étranges. « Est-ce là le pays où nous allons ? » demanda-t-elle à ses frères. « Non, » répondit le plus jeune. « Ce château de nuées est un mirage. C'est celui de la fée Morgane, où nul être humain ne doit s'aventurer. » Héloïse, plus loin, crut entendre des orgues, mais ce n'était que le souffle du vent dans les nuages. Plus loin encore, la houle s'apaisa et elle découvrit enfin le but de leur périple. Un pays avec des montagnes aux crêtes bleues, des forêts et des villes immenses. Au crépuscule, tous arrivèrent dans une grotte voûtée, tapissée de plantes aux odeurs merveilleuses. « À quoi vas-tu rêver ?» demanda le plus jeune des frères. « Mon vrai rêve serait de vous délivrer de ce terrible sort, » répondit Héloïse. Cette pensée était si prenante que soudain, elle eut le sentiment que son rêve prenait corps, l'emportant loin par-delà les airs jusqu'au château de la fée Morgane. Et quelle ne fut pas sa surprise quand elle reconnut sous les traits de cette fée la vieille femme qu'elle avait rencontrée dans la forêt. « Si tu veux sauver tes frères, » dit Morgane, « tu devras avoir un grand courage car ta mission est difficile. Mais tu y parviendras en suivant fidèlement mes conseils. Écoute attentivement. Cueille des orties, de la variété poussant près de la grotte où tu te trouves. Des cloques brûleront ta peau et abîmeront tes mains délicates, mais poursuis ta tâche sans faillir. Tresse ces orties pour en faire 11 gilets dont tu recouvriras les signes sauvages. C'est seulement à ce prix que le sortilège sera rompu. Mais n'oublie pas, pendant tous les longs mois ou les longues années que durera ce travail, tu ne devras pas prononcer la moindre parole. Un seul mot de toi et tes frères mourront. » Et Héloïse revint à la grotte comme elle en était partie, par enchantement. Sans plus attendre, elle commença à arracher les orties. Ses bras, ses doigts le brûlaient, mais elle continuait inlassablement, car elle savait que c'était le prix à payer si elle voulait sauver ses frères. À la nuit tombante, lorsqu'ils rentrèrent, ils s'affolèrent de la trouver muette, mais en voyant ce qu'elle faisait, ils comprirent qu'elle tentait de les sauver. Le plus jeune frère se mit à pleurer sur son épaule et ses larmes apaisèrent les brûlures d'Héloïse. Pendant 2 jours et 2 nuits, elle travailla sans cesse et eut bientôt fini son premier gilet. Elle allait commencer le second quand elle entendit aboyer des chiens de chasse. Elle ramassa ses bottes d'ortie et se réfugia dans la grotte. Mais au même moment, un chien bondit hors des taillis pour l'y rejoindre, aussitôt suivi par une troupe de chasseurs. L'un d'entre eux s'approcha d'Héloïse. C'était le roi de ce pays. Troublé par la beauté de la jeune fille, il lui demanda comment elle était arrivée là, mais elle se tut, obstinément, liée par le sort de ses frères. Le roi insista, questionna, câlina, mais rien ne sortit de la bouche d'Héloïse. Mais ses yeux parlaient pour elle. Le souverain était jeune et beau, et la princesse n'était pas insensible à tout cela. Et comme il arrive souvent dans ces histoires merveilleuses, le roi tomba fou amoureux. Mais Héloïse avait une tâche à finir, et elle ne pouvait rien dire. Alors, quand le jeune homme la plaça sur son cheval pour l'emmener dans son château, Héloïse pleura en songeant à ses frères. Le soir venu, ils parvinrent à la ville royale. Le roi conduisit la jeune fille au palais et la fit vêtir d'une robe de soie couleur de lune. Plus resplendissante que jamais dans ses magnifiques atouts, elle continuait pourtant à pleurer. Le roi ne semblait pas s'en soucier. Il continuait à sourire et ordonna que l'on joue de la musique, que l'on apporte les friandises les plus raffinées. C'est sûr, elle allait l'aimer. Puis il conduisit Héloïse dans de superbes jardins. Comme son visage restait sombre, il ouvrit la porte d'un petit appartement qui ressemblait étrangement à la grotte où elle vivait. Sur la table, on avait déposé la botte d'ortie qu'elle avait filée et le gilet qu'elle avait fait. Alors, Héloïse retrouva le sourire. Ses yeux, sa bouche, tout son corps disaient son bonheur et sa gratitude. Elle se remit aussitôt au travail. Le roi, heureux de l'avoir vue sourire, annonça aussitôt à tous ses sujets qu'il allait bientôt l'épouser. L'archevêque voyait d'un mauvais œil le mariage du roi avec cette fille muette. C'est pourtant lui qui célébra la noce. Pour manifester son mécontentement, il enfonça si fort la couronne sur le front d'Héloïse qu'il la blessa. Mais une fois encore, elle tut sa douleur en pensant à ses frères. Jour après jour, elle s'attachait de plus en plus à son époux dont le cœur était pur. Elle aurait aimé lui parler, mais elle poursuivait son ouvrage en se taisant, tissant les gilets inlassablement. Arrivée au 7e, elle s'aperçut qu'elle n'avait plus d'ortie pour finir son travail. Ne pouvant rien demander, elle décida d'attendre la nuit et s'échappa du château pour en ramasser près du cimetière où ils l'ont poussé. Hélas, tapis dans l'ombre, l'archevêque avait observé son manège. Aussitôt, il rapporta au roi ce qu'il avait vu, allant jusqu'à insinuer qu'Héloïse était une sorcière malveillante qui n'avait séduit le souverain que pour faire son malheur. Ces paroles ébranlèrent le roi qui devint de plus en plus triste, et sa peine s'ajouta au chagrin d'Héloïse. Et pourtant, elle tissait inlassablement, ses frères dépendaient d'elle. Bientôt, pourtant, elle arriva au terme de son ouvrage. Un seul gilet manquait et, une fois de plus, elle se trouva à court d'ortie. Elle repartit donc au cimetière sans s'apercevoir que le roi et l'archevêque la suivaient. Malheureusement pour Héloïse, le cimetière était l'endroit même où se rassemblaient les sorcières. Le cœur du roi se brisa net. Sa femme, une sorcière ? La mort dans l'âme, il décida qu'elle serait brûlée vive. Il la fit jeter dans un cachot. Héloïse se savait condamnée, mais elle avait une chose à faire avant d'aller sur le bûcher, finir les gilets. Alors elle se remit à l'ouvrage. Vers le soir, elle entendit un bruissement d'ailes contre les barreaux de sa prison. Ses frères l'avaient retrouvée et sa tâche presque achevée. Un espoir se dessinait, peut-être aurait-elle le temps. Toute la nuit, Héloïse stressait encore et encore. Les 11 frères décidèrent qu'il leur fallait tout tenter. Une heure avant l'aube, ils se présentèrent à la tour de garde du château et demandèrent à voir le roi. Mais le soleil pointa son nez avant qu'ils n'obtiennent audience et ils redevinrent signes sauvages. L'heure de brûler la sorcière approchait. La foule se pressait pour assister à l'événement. Il ne restait à Héloïse qu'un tout petit bout de gilet à finir, et sur la route même du bûcher, elle s'obstinait à tresser son 11e gilet, que la foule voulait lui arracher en criant qu'il s'agissait bien de sorcellerie. Au moment où elle s'approchait du bûcher, les 11 cygnes se posèrent à ses côtés. Ce n'était pas fini, mais tant pis. Héloïse lança sur eux les 11 gilets et ils redevinrent les princes aux cheveux d'or qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être. Le plus jeune avait encore une aile de cygne, car son gilet n'avait qu'une manche. Alors Héloïse, enfin, parla. Elle parla haut et fort. Elle raconta tout, clamant son innocence. Puis elle se tourna vers son époux et lui dit enfin son amour. Et ils vécurent heureux aussi longtemps que le temps dura. C'était l'émission Compte-gouttes enregistrée depuis la maison. Portez-vous bien et à demain.